Il en a décidé ainsi, abandonner une carrière de manager pour questionner le monde, le vaste monde, rapporter son témoignage. Saïf Kousmat est devenu photographe par intime conviction. Il va nous raconter sa trajectoire entre Rwanda, Mauritanie, Maroc, quand ce n'est pas l'Asie. Son travail sur les Boujloud est à voir en ce moment à Tanger. Ce Bonne Culture va continuer ensuite sous le signe de la lecture, le Salon international du livre qui vient d'ouvrir à Casablanca. Nous sommes aussi en plein Maghreb Orient des livres, c'est à Paris, c'est en ce moment. Nous parlerons aussi de bande dessinée avec le travail entre autres du journaliste Quentin Muller sur les traducteurs afghans, les fameux Tarjuman. C'est une BD qui se lit comme un thriller et c'est parfait pour le week-end, c'est Bonne Culture. Une sorte de révélation. Rendez-vous avec Saïf Kousmat après un début dans le génie civil. Eh bien, il va abandonner peu à peu cette carrière pour une passion, la photographie. Nous sommes avec lui dans ce bain de culture.
Midi avec Florence Blanc.
Saïf Kousmat, bonjour.
Bonjour.
On va parler des sujets difficiles souvent que vous abordez, hein, comme l'immigration, il y a aussi l'esclavage en Mauritanie, les jeunes au Rwanda, dans les contre-coups du génocide. On va en parler dans un petit instant, mais tout d'abord, vous êtes donc lauréat de ces premières rencontres à Tanger, qui s'appelaient Face à la mer, c'était ce printemps. Des rencontres qui ont réuni de jeunes photographes alors du Maghreb et d'Afrique, vous en faisiez partie, pour rencontrer des professionnels afin de mieux appréhender le métier. Alors votre travail a été sélectionné, récompensé. Et ce sont donc vos photos en ce moment qui sont exposées à la librairie, donc au lieu de création Les Insolites, qui fête ses 10 ans. Vous avez gagné, donc remporté cette première manche, on dirait, pour Face à la mer. Et vous, eh bien, ce sont des photos sur les Boujloud, dans le sud du Maroc. C'est une tradition un petit peu dans le sillage de l'Aïd El Adha. Je pense que vous allez continuer parce que vous allez en parler beaucoup mieux que moi, mais vos photos évidemment sont totalement saisissantes. Qu'est-ce que c'est les Boujloud ?
C'est concentré dans la région du Sousse, au sud, ouais, du Maroc. Et en fait, c'est des créatures c'est des jeunes qui se dévestissent avec des peaux de moutons, des peaux de chèvres pour faire peur. Et c'est une sorte de carnaval en fait. Mais à la base, c'est une fête païenne.
Oui.
Et du coup, au fur et à mesure, ça s'est adapté à la culture marocaine et ils commençaient à la fêter au moment de l'Aïd, l'Aïd El-Kbir.
Et oui, puisqu'ils sont revêtus de peau de chèvre, de mouton, les yeux sont maquillés, les figures sont cernées de noir, les yeux, et ces hommes visiblement défilent dans les rues. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de faire peur, ils font peur hein, de toute façon, mais il paraît que c'est une fête bienveillante aussi.
Oui, mais après, c'est pour chasser un peu le mauvais œil, pour ramener un peu de baraka et tout ça. Et du coup, les gens, en contrepartie d'une petite pièce, ils prennent un coup de fouet avec la patte. Parce qu'ils ont souvent une patte de mouton suspendue à leur main. Ils donnent un petit fouet comme ça pour chasser le mauvais œil et apporter la baraka à la personne qui donne une pièce. Donc, non, c'est très, très particulier. Mais sauf que moi, je me rappelle quand j'étais très jeune, je suis né à Essaouira, et quand on
Oui.
était très jeune, dans les années 90, il y avait ce rituel, il était un peu partout dans la ville. Et on croisait des bouches d'oud et tout ça. Il nous faisait un peu peur, il nous pourchassait et tout ça. Mais au fur et à mesure des années, ça se perd. Et du coup, maintenant, ça se concentre dans la région du Sousse, vers Agadir, Taroudant, Ouarzazate un peu. Et je voulais documenter ce phénomène qui est très particulier, qui dure même pas une semaine chaque année.
Eh oui.
Et voilà, donc je me suis rendu là-bas en 2017. J'ai réalisé en fait j'ai documenté en fait tout le rituel, tout ce qui se passe, et j'ai réalisé une série de portraits également, ces bougeloudes, la série en noir et blanc avec des
Voilà.
portraits de différents bougeloudes que j'ai croisés sur mon chemin, et c'est cette série qui est exposée actuellement aux Galeries Insolites
Oui, parce qu'en
à
fait,
Tournai.
il y a eu un travail en deux temps, hein. Vous avez choisi de les suivre, ces bougelouds, de leur préparation. Et ça, c'était des photos en couleur. Et puis, vous avez tiré le portrait, vous les avez fait poser. Alors, il y a des hommes, il y a des enfants, c'est tous soit des très jeunes garçons ou des hommes. Visiblement, il n'y a pas de femmes, hein, dans les bougelouds. Et là, à ce moment-là, vous leur avez dit, comment c'est difficile d'appréhender comme ça quelque chose qui est en fait très... Il y a beaucoup d'action et là vous les faites poser. Alors on dirait des guerriers carrément, hein, ces photos en noir et blanc.
Bah justement, j'ai utilisé le noir et blanc et ces portraits posés pour faire sortir le mythe de ce bougelou, de cet homme monstre qui fait peur, et que renforcer un peu le message de ce carnaval. Et ceci dit, les jeunes de la région, ils attendent ça avec impatience. Et ils le préparent des mois à l'avance. Il y a une sorte de concurrence entre eux, combien de pots tu vas mettre, parce que là, à chaque fois, c'est plusieurs pots de bêtes. Il y a une sorte de concurrence. Le mien, il est plus gros. Le tien, il est un peu petit. Donc, il y a une sorte de
Oui, il faut le
compétition qui
plus
se met en
gros, celui
place.
qui fait le plus peur, carrément. Il faut être grand, fort. On a l'impression vraiment de choses tribales, quoi, d'un seul coup. Là, ça sort des tripes.
C'est exactement ça. Et en parallèle, il y a aussi les jeunes qui se déguisent autre chose que le bougeloute. C'est-à-dire, ça s'est développé carrément un carnaval. Il y en a qui préparent des chars en carton, des clowns, des jokers. Et c'est devenu une sorte d'exutoire pour cette jeunesse qui est dans ces régions un peu du sud, qui n'y a pas énormément d'événements culturels pour eux, il n'y a pas vraiment d'endroits où ils peuvent exprimer leur créativité et tout ça. Et donc, ça devient un événement très très important. Ils les prennent très au sérieux à chaque fois.
Les bougelouds, impressionnants, hein, à regarder droit dans les yeux. Exposition en ce moment, c'est à la galerie Les Insolites de Tanger. C'est jusqu'au 20 février. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tiamo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border. Giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, taking your time, and now I know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. They are my mommy, they are my mommy. Don't wake up, this love is like a dream. So join me in this bed. Up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that
Margarita. I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than something boring. Legs up and tongue out, Michael Jordan. Go exploring, something foreign. Bust it open, rainforest, it be pouring. Yeah, kiss me like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini, 'cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop the ball.
Stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Come south of the border.
On parle photo dans ce bain de culture avec le lauréat des premières rencontres photographiques de Tanger. Elle s'appelle Face à la mer, c'était au printemps dernier, elles vont revenir bientôt. Le travail sur les Boujlouds du sud du Maroc qui a été récompensé. Saïf Kousmat expose en ce moment à la Galerie des Insolites. Photographe pour lui, c'est tout simplement interroger le monde. Saïf Kousmat est donc parti à la rencontre des migrants qui attendent de grimper le mur en vivant dans la forêt de Gourougou à Melilla.
Bain de culture, photographie.
Ce travail qui s'appelle « Six Meters from the Dreamland », ça veut dire à 6 mètres de la terre rêvée, pas forcément promise, mais rêvée. Vous avez passé du temps avec ces migrants. Comment on les approche? Comment on se fait adopter pour pouvoir tirer ces portraits magnifiques que vous avez faits, leur façon de... Comment ils se préparent justement à grimper par-dessus, à la frontière avec l'Espagne.
C'est un sujet très très compliqué dans son exécution et dans son approche, comme tu le dis. Il fallait d'abord comprendre leur histoire avant de demander la permission de vivre avec eux. Donc, c'est-à-dire, je me suis beaucoup documenté, j'ai rencontré des migrants loin de la frontière, parce que la frontière, c'est vraiment une zone tendue. Ils sont sur leur garde, ils se méfient de tout. Et je me suis d'abord rendu à Fès à l'époque, il y avait un bidonville à côté de la gare, où j'ai passé énormément de temps à discuter avec ces migrants qui rentraient à ce bidonville pour se reposer. C'est grâce à cette connaissance du terrain et que j'ai réussi à cibler les bonnes personnes, à aller sur place, à prendre du temps en fait. Au début, je me méfiais.
Oui, c'est normal.
C'est normal, c'est, mm-hmm. c'est légitime. Donc j'ai juste pris mon temps, je n'étais pas pressé. Le sujet, ça a duré 3 ans. Et surtout, j'ai expliqué pourquoi je souhaite faire ça. C'est-à-dire que c'est pour raconter l'histoire de leur perspective à eux. Dans les médias, on parle des flux migratoires, on parle de jeunes qui veulent aller en Europe, qui prennent tous les risques et tout ça, mais on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les histoires personnelles de chacun. Et du coup, moi, mon sujet, c'est positionner de ce point de vue-là, c'est-à-dire de la perspective de ces jeunes qui quittent tout, qui prennent tous les risques pour aller chercher la terre promise, la terre rêvée. Et ils sont prêts à mourir. Et pourquoi ils sont prêts à mourir? Parce que chez eux, il n'y a plus rien à perdre. Et donc c'est de cette perspective-là que je me suis positionné et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir l'accès pendant ces 3 dernières années. Et on est resté toujours en contact. Mm-hmm. J'ai suivi quelques-uns jusqu'au Mali pour comprendre la situation sur place. Ceux qui avaient traversé, j'ai suivi en Espagne pour voir les conditions d'accueil en Europe, comment ils vivent cette situation, est-ce que l'Europe qu'ils avaient rêvé bien avant de partir ressemble vraiment à la réalité. Et tout ça, j'essaie de répondre à ces questions-là en image avec mon sujet sur ce sujet-là.
Mais vous avez rencontré des gens, il y en a certains, des jeunes hommes, hein. Ça fait 10 fois, 15 fois qu'ils essaient de franchir le mur. À chaque fois, c'est le matin, ils se préparent, ils mettent leurs chaussures. Enfin, je veux dire, quelquefois, ils n'y arrivent pas, évidemment. Quelquefois, ils y arrivent. Ça, il a fallu les approcher vraiment de très, très près.
Clairement, j'ai vécu là-bas avec eux. Je dormais avec eux, je mangeais avec eux. Des fois, je passais une semaine, 10 jours sur place.
Parce qu'il y en a, ils attendent un an, 2 ans avant de refaire.
Il y en a qui attendent 5 ans.
5 ans.
Ils attendent 5 ans, 6 ans, 8 ans. Il n'y a pas de limite. Et en fait, ils se retrouvent, au final, ils se retrouvent bloqués dans cette zone frontalière, dans la forêt de Gourougou. Ils ont honte de rentrer chez eux. dans leur pays d'origine parce qu'il y a énormément de pression. Ils ont promis aussi à leurs proches qu'ils allaient réussir pour améliorer leur situation. Ils ne peuvent pas aller en Europe parce qu'il y a ces énormes barrières. Malgré le fait qu'ils essayent, réessayent, réessayent, c'est très compliqué de passer. C'est quasiment mission impossible maintenant de passer. Impossible. Et eux, ils persévèrent, ils continuent. De temps en temps, il y a un groupe qui réussit à passer. Mais c'est très rare, c'est vraiment très rare. Là depuis que je suis la barrière en 2016, je peux dire il y a à peu près moins de 2000 personnes. Comparé au nombre de jeunes qui vivent en forêt, c'est rien.
Je vous posais une question sur votre portfolio. Il y a une photo que j'ai vue. Il y a des chaussures. Enfin, on a l'impression d'une fuite des gens qui. Et puis, dans une chaussure, il y a une photo à l'intérieur avec une famille. Cette photo qui reste comme ça, qui nous regarde en fait.
Et ça, la photo, en fait, j'ai retrouvé dans le camp de Grogo où quelqu'un qui a pris ce chemin vers la frontière, il a fait tomber cette photo, il l'a laissé là-bas. Mais quand j'ai cherché, j'ai demandé à qui appartenait cette image, on ne sait pas. Et cette image, comment dire, elle résume très bien la situation de ces migrants, c'est-à-dire ils ont des familles derrière, et ils sont perdus dans ce chemin vers l'Europe, mais on ne sait pas où ils sont. Et voilà, et tout le chaos qui était autour de cette image, bah, c'est leur quotidien.
Déjà nos villages s'éloignent. Quelques fantômes m'accompagnent. Il y aura des déserts, des montagnes à traverser jusqu'à l'Espagne. Et après, Inch'Allah. On a de mauvaises chaussures. L'argent cousu dans nos doublures. Des passeurs doivent nous attendre. Le peu qu'on a, ils vont le prendre. Et après, est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers sont armés? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien. Sauf que chez moi, sauf que chez moi y a rien. Pas de salon, pas de cuisine. Les enfants mâchent des racines. Juste un carré de poussière, un matelas jeté par terre. Au-dessus, Inch'Allah. Vous vous imaginez peut-être que j'ai fait tous ces kilomètres. Tout cet espoir, tout ce courage pour m'arrêter contre un grillage. Est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers vont tirer? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien, sauf que chez moi. Sauf que chez moi, y a rien. Je n'en sais rien. On verra bien.
Saïf Kousmat est avec nous dans ce bain de culture. Il y a 7 ans, il abandonnait son travail de manager dans le génie civil pour se consacrer à la photographie. Saïf Kousmat a voyagé, arpenté certains pays, un engagement total pour lui.
Bain de culture avec Florence Blanc.
C'est un travail que vous faites, vous vivez donc ce genre d'expérience. Là, vous avez vécu avec les migrants. Vous êtes parti aussi au Rwanda et vous êtes parti aussi au Mauritanie. À chaque fois, ce sont des sujets évidemment extrêmement sociaux, douloureux. Ça, vous les avez dans le ventre, quoi, ce genre de sujet, c'est vous qui les choisissez, ce sont des choses qui vous intéressent, qui vous interpellent, et vous voulez absolument donc nous les retranscrire en images.
Bah, c'est, chaque sujet, c'est une démarche personnelle. C'est, mmh. c'est moi qui le choisis, qui se documente. Et c'est ma définition de la photographie documentaire. C'est que je ne peux pas m'investir autant sur un sujet si je ne m'intéresse pas un minimum et si ce n'est pas une démarche personnelle. Passer 3 ans à vivre avec des migrants, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. C'est juste le fait qu'il y a cette curiosité de s'intéresser à l'autre, de faire passer les messages et peut-être changer les choses. C'est ça qui me fait avancer, qui me fait continuer à bosser sur des sujets sur le long terme. Mais sinon, d'un point de vue financier, ça ne rapporte rien. C'est très compliqué. Donc c'est vraiment une démarche personnelle pour comprendre le monde et le partager avec les autres et surtout faire avancer les choses à chaque fois.
Pardon. Vous avez dit une jolie chose, vous dites c'est pour faire partager le monde. Quand vous faites partager vos photos sur la Mauritanie, hein, donc où l'esclavage est aboli officiellement depuis le début des années 80, ça continue encore. Vous avez eu des problèmes en Mauritanie, mais vous avez rapporté des photos évidemment extrêmement poignantes. Ça, vous vivez avec. Comment vous le partagez ensuite? Voilà.
Ça, le but, c'est j'en parle au maximum.
Bien sûr.
J'en parle avec mes amis, avec ma famille. Le sujet, j'essaie de le pousser. Ça a été publié. Ça a fait la couverture de Newsweek International. Donc, le but, c'est d'aller chercher un maximum d'audience.
Voilà, c'est ça.
Ils se rendent compte que cette situation existe. On en parle maintenant, là, tout de suite, à la radio. C'est partout, à chaque fois. Je prépare aussi un livre pour parler de cette situation. On continue. Là, par exemple, sur ce sujet-là, je me suis posé la question sur mon rôle de photographe. Est-ce que je m'arrête juste à l'image, à la diffusion, à la publication, ou je prends un rôle d'activiste? Quand tu vois une situation aussi complexe que celle de l'esclavage en Mauritanie, tu te demandes cette question, tu te demandes ce genre de question. Mon rôle s'arrête tout exactement.
Exactement. Vous avez été aussi au Rwanda. Les photos, là aussi, les photos sont poignantes. Hein. Vous vouliez, 25 ans après le génocide des Tutsis par les Hutus, rencontrer des jeunes, voir s'il y avait des possibilités de réconciliation, de travail ensemble. En fait, oui, il y en a, mais vous étiez là au cœur de... Là aussi, vous avez mis combien de temps pour faire ce travail sur le Rwanda ?
D'immersion sur 2 mois et demi où je me suis rendu sur place, j'ai vécu là-bas et c'est pas un sujet que j'ai compris tout de suite. Au début, je m'intéressais principalement à la réconciliation et au pardon parce que en peu de temps, le Rwanda commençait à rayonner à l'échelle africaine et je voulais comprendre c'était quoi la clé de cette réussite, parce qu'ils ont réussi à remettre en question beaucoup de choses et à progresser. Quand je commençais à faire mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait ce process de réconciliation, de pardon entre les Tutsis et les Hutus. Voilà. Il y a vraiment une vraie prise en charge.
D'accord.
Et en me rendant sur place, je me suis aperçu que cette réconciliation était beaucoup plus impactante sur les jeunes qui sont nés pendant le génocide, où ils étaient très jeunes pendant le génocide. C'est-à-dire, ils sont enfants de rescapés, d'exilés, enfants atteints du VIH parce que la maman a été violée durant le génocide. Mm-hmm. Et ils sont aujourd'hui obligés de coexister sur le même territoire. Ils ont à dealer avec, à gérer leur passé très compliqué, passé de leur famille, et passé au-delà. Mais aujourd'hui, ils coexistent ensemble sur un même territoire. Et ils construisent l'avenir pour demain. Et c'était très très fort et très inspirant comme rencontre avec ces jeunes.
D'accord. Votre quotidien, c'est de vous battre pour faire ces photos. Vous disiez, ça ne paye pas. Votre vie a donc complètement changé, mais vous continuez dans cette voie-là. Ça y est, impossible de revenir en arrière.
C'est pas facile tous les jours, mais je suis très très heureux de faire ce métier et d'aller vers des gens différents à chaque fois, découvrir le monde d'une autre manière et le partager avec les autres surtout. Là-dessus, j'ai aucun regret.
Merci pour le partage. Merci de nous avoir fait vivre vos photos, même si nous sommes en radio, Safe Kousmat. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Donc, on retrouve votre exposition en ce moment. Hein, l'un de vos travaux sur les Bougelouds, c'est en ce moment à la Galerie des Insolites à Tanger.
À bientôt.
Il était l'une des icônes de l'âge d'or de Hollywood. Kirk Douglas avait 103 ans, il s'est éteint cette semaine. Il avait été l'un des artistes les plus populaires dans les années 50 et 60. Nombre de ses films sont devenus des classiques, des films cultes, Spartacus, Les Sentiers de la Gloire, 20 milieux sous les mers ou bien Règlement de compte à Hockey Corral. Il a été acclamé aussi pour son engagement démocrate contre le racisme, la lutte pour les Amérindiens. Producteur aussi, producteur courageux lors du McCarthyisme. Voilà ce qu'il répondait quand on lui demandait quel était son film préféré. Alors vous allez l'entendre, il parlait très bien le français. Un français qu'il a appris en venant tourner un film en France, mais aussi après avoir épousé Anne, une belgo-américaine.
C'est difficile de choisir, mais il y a les films que j'aime pour les raisons différentes. Par exemple, j'aime beaucoup Spartacus, parce que c'est une histoire que j'adorais et j'adorais de travailler avec les acteurs comme Laurence Olivier, Charles Laughton, Pierre Ustinov. Et il y a les petits films, les films comme Chemin de la gloire, que j'aime beaucoup parce que c'est un sujet que je trouve très très intéressant et aussi c'est le commencement d'un grand talent comme Stanley Kubrick. Et j'adore, j'aime beaucoup les westerns de temps en temps que j'ai fait comme Gunfight at the OK Corral. Et souvent, il y a un film comme Lust for Life, La vie de Van Gogh. C'est difficile de trouver un seul film. Il y a plusieurs films que j'aime pour beaucoup de raisons.
Je veux devenir votre ami aussi. Tout ce que j'exige, c'est que vous soyez obéissant. Comment t'appelles-tu, esclave ?
Spartacus.
Je n'ai pas l'honneur de te plaire, hein ? Donne-lui ton glaive. Prends-le. J'ai l'impression que tu me tuerais bien. Eh bien, c'est la seule chance que tu auras jamais de le faire. Dis-moi, n'aie pas peur, esclave. Tu as un glaive et je n'ai que ce morceau de bois. C'est un ordre. Obéis-moi. Redonne-lui son glaive. Tu es moins bête que je croyais. Tu es peut-être même intelligent. C'est dangereux pour un esclave. Alors écoute, souviens-toi qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te perds pas.
Kirk Douglas, qui savait aussi jouer de l'autodérision, vous allez l'entendre, ça c'est en 1990. Il est président de la cérémonie des Césars en France.
Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Vous savez, c'est un grand mois pour la troisième fois. Mais cette fois-ci, je suis tellement heureux parce que je suis le président. Ça, c'est quelque chose d'important. En Amérique, vous savez, c'est pas très difficile pour un acteur de devenir le président. Mais... ici, c'est vraiment important. En Amérique, nous aimons vos films, vos artistes. Nous croyons que le film parle une langue internationale. C'est pour ça que je suis très content. Je déclare ouverte la 15e cérémonie des Césars du cinéma français. Merci.
Voilà le sens de l'humour hein, de ce Mr. President des Césars. C'était en 1990, Kirk Douglas, un Français carrément impeccable, l'acteur, producteur, réalisateur, mais aussi écrivain, est donc décédé cette semaine. Il avait 103 ans.
Midi, bain de culture avec Florence Blanc.
Place à la lecture maintenant et plus spécialement à la bande dessinée à qui on a rendu hommage au tout début de ce mois, le Festival d'Angoulême, le Festival international de la bande dessinée. Nous avons rendez-vous avec Quentin Muller, il est journaliste, avec Brice Andlauer et le dessinateur Pierre Tisse. Ils ont mis en image leur livre sur les traducteurs afghans qui ont travaillé avec l'armée française de 2001 à 2012 durant l'intervention occidentale en Afghanistan. L'armée française a employé 800 interprètes, des tarjoumans, c'est en langue dari. Il représentait un maillon indispensable au travail des soldats sur le terrain. Pourtant, une fois la France retirée d'Afghanistan, eh bien, elle les a laissés de côté en refusant d'accorder des visas à la plus grande partie de ses interprètes. Sur Midi 1, entretien avec Quentin Muller, avec aussi le témoignage d'un tarjouman.
J'étais encore à l'école que j'ai commencé à travailler avec l'armée française en 2003 jusqu'à juillet 2012. J'étais avec une équipe qui s'appelait Artec. C'était une équipe d'intervention sur les attentats explosifs. C'était une équipe d'investigation. J'ai donné mon 9 ans pour l'armée française. J'ai travaillé le jour et la nuit pour l'armée française. Et travailler avec des troupes étrangères, c'est toujours un risque. Les gens ici, ils pensent que les gens qui ont travaillé avec l'armée étrangère, ils ont des espions. Ma vie, c'est complètement en danger. Je ne peux pas aller dehors. Les gens, ils cherchent les interprètes.
La France ne connaissait pas l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une population locale qui parle français, pas une population locale qui parle diverses langues comme le dari, le pachtoun, le baloutch, voilà. Elle n'a pas de relais sur place, donc elle n'a pas d'historique dans la population. Elle a que très peu de liens avec l'Afghanistan. Donc ces jeunes-là qui parlaient soit français parce qu'ils étaient au lycée Malala de Kaboul et donc ils étaient un peu francophiles, ils connaissaient un peu la France, soit qui étaient anglophones parce que c'était des jeunes qui étaient à l'université et qui étaient ouverts un peu sur l'extérieur. Sans ces gens-là, la France aurait été totalement perdue pour ses missions, en tout cas à l'extérieur de ses bases. Et même dans ses relations, dans sa formation, parce que la France était en Afghanistan pour deux choses, pour former l'armée nationale afghane, pour en faire une armée autonome, et pour des missions pour débusquer des chefs talibans ou des chefs d'Al-Qaïda. Donc sans ces interprètes pour faire tampon entre la société afghane et la réalité du terrain, et les instructions et les ordres français, je veux dire, la France n'avait absolument rien à faire en Afghanistan. Donc c'était des gens qui étaient au cœur des stratégies françaises en Afghanistan, et qui étaient au cœur des missions françaises en Afghanistan. Et on en a embauché 800 sur une période, sur une décennie de présence en Afghanistan. Et ce n'était pas d'ailleurs que des traducteurs, c'était aussi des magasiniers, des physionomistes, tous les gens qui sont, tous les locaux qui sont utiles à une présence sur le sol afghan, voilà, à une présence militaire. Donc sans ces gens-là, on retire ces gens-là, la France ne peut rien faire en Afghanistan. Voilà. Donc ces gens-là étaient vraiment très importants pour l'armée.
Nous, on ne sait pas quel jour on soit tué, qui va nous tuer, qui va kidnapper nos enfants, qui va tuer nos parents, parce que nous, on a travaillé avec l'armée française.
Alors, les troupes françaises se retirent en 2012, après avoir engagé 800 traducteurs, mais voilà, c'est un départ abrupt et le sentiment d'une promesse non honorée. Pas de titre de séjour, pas de protection, en fait, rien n'était programmé de façon officielle.
Disons que dans les contrats, il n'a jamais été dit que les interprètes seraient protégés en cas de départ de l'armée française. Non, je pense que l'armée française déjà n'avait pas en tête, quand ils ont embauché ces traducteurs, qu'elle allait s'en aller en 2012. C'était pas programmé comme ça. Mais disons qu'en 2012, déjà avant, sous Nicolas Sarkozy, mais beaucoup sous Hollande directement, François Hollande décide de se retirer d'Afghanistan et de déplacer la guerre au Sahel. Mais il n'a jamais été prévu, en tout cas en 2012, de rapatrier ces interprètes afghans-là. En tout cas, dans les hautes sphères, c'est-à-dire à Paris. À Paris, Paris ne décide pas en 2012, quand Paris se dit « il faut qu'on rapatrie nos soldats français et qu'on stoppe la guerre en Afghanistan », il n'y a pas de plan qui est prévu, qui est préétabli pour rapatrier nos auxiliaires afghans. C'est que c'est uniquement dans des petites sphères, c'est-à-dire c'était une soirée de départ, un pot de départ entre des hauts militaires, des hauts gradés et quelques personnes au ministère des Affaires étrangères, donc de l'ambassade à Kaboul, qu'on se dit qu'il serait peut-être bien d'en rapatrier quelques-uns parce que pas mal seraient en danger. Donc, c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'il faut en rapatrier. Et à ce moment-là, des retours qui se font sur le terrain jusqu'à Paris. Et on demande, en tout cas un militaire et une personne de l'ambassade, demande à ce que certains interprètes soient rapatriés. À ce moment-là, il y a un espoir, c'est ce que nous on révèle dans la BD, c'est qu'il y a un espoir d'en rapatrier 400. C'est-à-dire 400 sur les 800 embauchés, et que les autres qui ne pourraient pas venir en France seraient peut-être, on leur proposait en tout cas d'être relocalisés, donc c'est-à-dire de les envoyer dans des pays limitrophes, dans des pays à proximité de l'Afghanistan, pour en tout cas les protéger d'éventuelles menaces des talibans ou de milices locales qui seraient radicalisées. Donc à ce moment-là, il y a un espoir, sauf que Manuel Valls, qui est à l'époque Premier ministre, met tout de suite un quota, il établit tout de suite un quota, donc dès 2012, et le quota sera de 35 rapatriements sur 800. Et à ce moment-là, tout l'espoir de quelques militaires et de quelques personnes à l'ambassade d'en rapatrier 400 s'effondre, et donc Paris ordonne un quota, ça sera 35 sur 800, pas plus. Donc l'ambassadeur, qui est à l'époque Bajolet, décide d'en parler à Hollande, puisqu'ils sont proches, et lui dit que ça serait bien de doubler donc le quota d'arriver à 70. Donc 60, on est à 73 sur 800, ce qui est encore très faible. Donc dès le début, en fait, la France considère ces gens-là comme du budget en moins, comme des gens à recaser en France, comme une mesure qui ne serait pas populaire aussi auprès de l'électorat français. Donc ça serait quoi, des étrangers en plus en France. Donc en fait, on en fait un quota, on en fait des migrants, on en fait des gens qui ne mériteraient pas forcément de venir en France. Voilà, on parle de mérite, on parle d'intégration dans le choix. C'est ce qu'on révèle aussi dans notre BD, c'est qu'il n'y a pas seulement les risques encourus pour eux et pour les interprètes et leurs familles par rapport à leurs missions, les missions qu'ils ont pu avoir avec l'armée française. Non, on intègre des critères racistes, des critères xénophobes, c'est-à-dire si la personne n'est pas trop musulmane, pas trop intégriste, si la personne n'est pas trop âgée. Donc c'est-à-dire on pense à une future à son futur professionnel en France, ce qu'il peut apporter au pays. Vous voyez, donc on se base sur des critères qui sont très discriminatoires et qui sont très très subjectifs. Donc on se rend compte qu'avec ce quota et ces critères-là, que la France ne veut pas de ces auxiliaires-là, et les déconsidère totalement, et surtout pense qu'aucun journaliste ou que l'opinion publique ne va jamais s'en saisir, et que ça va rester secret, cette histoire-là. Alors, on a eu pas mal d'entretiens avec des militaires qui étaient au cas par cas, hein, c'est quelques militaires, c'est quand même assez, assez rare, qui étaient totalement scandalisés du sort de leurs frères d'armes qui ont été abandonnés. Mais vous voyez, on peut pas, quand on est dans l'armée et quand on n'est pas un haut officier de grande importance, c'est difficile de contredire sa hiérarchie, c'est difficile de critiquer ouvertement sa hiérarchie, donc c'est pas facile. Quant au ministère des Armées, on a eu un entretien avec le chef de cabinet de Le Drian, donc qui est resté pendant 5 ans, qui s'appelle Cédric Lewandowski, mais qui n'était plus au ministère de la Défense, qui nous a parlé un petit peu de cette affaire-là, mais pour le reste, je pense que ça les embarrasse hautement, parce que la France emploie en ce moment 3640 auxiliaires d'armée dans le monde, donc au Sahel principalement, et c'est-à-dire que cette histoire des Afghans, ils n'ont pas envie que ça se sache sur d'autres théâtres d'opération et que des possibles rapatriements sont aujourd'hui possibles.
Les gens, ils parlaient entre eux que c'est sa maison. Ils ont commencé de tirer. Ils ont bien détruit la porte d'entrée de chez moi. Quelques vitres étaient cassées, mais heureusement, je n'étais pas touché. Je ne veux pas que je perde la vie de mes enfants et ma famille à cause d'eux que j'ai travaillé avec l'armée française. La procédure de délivrer des visas pour les interprètes, une fois j'ai demandé, mais sans raison, ma demande a été rejetée par l'ambassade de France. On est optimiste, on espère que bientôt on pourra avoir notre visa. et sauver notre vie et la vie de nos enfants et la famille.
On travaille depuis quand même 3 ans pour médiatiser le plus l'affaire. On a sorti un livre également l'année dernière. Donc on essaye d'en parler le plus possible. On veut que ça se sache. Donc à Angoulême, on est tombé sur un public qui ne connaissait pas l'affaire ou qui la connaissait de loin. Et donc, en fait, à travers cette BD-là, on essaye d'incarner. Là, cette BD raconte 3 personnages donc réels, 3 interprètes afghans qui ont part de leur engagement militaire pour la France et on va jusqu'à leur abandon. Et en fait, on voit les tentatives d'assassinat qui ont été réelles, on voit leurs difficultés à rejoindre la France, que ce soit avec les migrants, et on voit que ces gens-là ont souffert au plus profond de leur chair, de cet abandon-là, mais aussi de la violence qu'ils ont dû faire face suite à cause de leur engagement pour la France. Et donc, qu'on fasse un festival comme Angoulême, c'est génial, parce qu'on est au contact des lecteurs, qu'on a le temps de leur parler de cette affaire-là. Moi, je retiens une anecdote toujours, j'en parle assez souvent. Donc, il y a une association qui représente ces interprètes-là, et une fois, ils ont eu un... Cette association-là a été reçue par le ministère des Affaires étrangères et de la Défense. Un jour, il y a un avocat qui pose la question à un haut militaire français et qui lui dit mais si vous comportez comme ça avec vos auxiliaires sur d'autres théâtres d'opérations militaires, plus personne ne voudra travailler pour la France. Et vous savez ce que le militaire lui répond? Mais avec un sourire narquois, il lui répond « Mais comment vous voulez qu'il le sache ?» Donc c'est vraiment important d'en parler le plus possible. Et à travers Angoulême, un festival comme Angoulême, c'est vital pour nous.
Voilà, entretien avec Quentin Muller sur Medi1. Il a donc travaillé avec Brissand Lauer pour mener son enquête. Les dessins sont de Pierre Tisse. Voici cette BD « Traducteurs afghans ». Une trahison française, l'une des révélations du Festival international de la bande dessinée de Angoulême qui s'est déroulée au tout début du mois de février. Et puis si vous avez envie de vous jeter à corps perdu dans la lecture, oui, il y en a, ça arrive. Le ciel de Casablanca, les portes du 26e ciel se sont ouvertes ce vendredi pour accueillir le public. On sait qu'il est nombreux, c'est le salon international du livre et de l'édition de Casablanca. Nombreux aussi les exposants, 700 en tout. Ils viennent bien sûr du Maroc, d'Afrique, d'Europe, d'Asie ou encore d'Amérique. La Mauritanie est à l'honneur. Chaque année, il y a un pays donc qui est à l'honneur. Et puis, la bande dessinée aussi sera mise en avant cette année. La BD qui attire de plus en plus de jeunes lecteurs. Tant mieux, le ciel, c'est jusqu'au 16 février prochain. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Bonne lecture si vous en avez envie. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine.
Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fits me so good, and I can't get. My name. No matter what I do.
just to get close to you. Could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste.